La bande dessinée indépendante, une nouvelle avant-garde féministe, point d'interrogation. Un vaste programme. Vaste programme qui est né de d'une interrogation commune à Henri, Landré et moi-même à propos de la bande dessinée. C'était pas très très original comme réflexion, mais on était parti un peu du lieu commun selon lequel la bande dessinée était un monde très fortement masculin. Et comme tous les lieux communs, ça se vérifiait effectivement, mais en même temps ça faisait pas tellement avancer le schmilblick. Et donc on a essayé de voir éventuellement ce qui pouvait caractériser la bande dessinée d'auteur, la bande dessinée indépendante par rapport à ces questions de genre, à la fois en termes de contenu mais aussi en termes d'acteurs et d'actrices du monde de la bande dessinée. C'est pour ça donc aujourd'hui on a invité différentes personnes pour parler ça. Je signale, je sais pas si c'est un acte manqué de leur part, mais qu'on avait invité quelques hommes qui n'ont pas pu venir. Je ne donnerai pas de nom. Ils n'étaient pas disponibles. Voilà, donc Henri et moi on va tâcher de tenir la barre. Je vais commencer par faire une petite présentation rapide de chacune de nos invités, puis ensuite, comme hier, on aura un peu une discussion à bâton rompu sur vos expériences respectives. Je vais commencer par le bout là-bas, donc Laure Delpino, qui est donc auteur de bande dessinée, qui travaille notamment au sein de la revue Ego Comics, qui a longtemps travaillé et édité une revue qui s'appelait Brulos le Zarzi, début des années 90. Et qui est actuellement, je crois, en préparation d'un livre chez les Requins Marteaux, entre autres choses, j'en oublie sans doute. Donc elle nous expliquera tout à l'heure un peu comment elle travaille, etc. À côté d'elle, Fafé, qui est auteur également et rédactrice en chef d'une revue. Alors j'ai pas précisé, mais Laure, elle vient de l'habite à côté de Nantes. Fafé, elle vient habite à Nice. Et donc auteur et rédactrice en chef de la revue qui s'appelle Le Faco, le Faco Cher, édité par les éditions Gouinge. Elle était également libraire un certain temps, si je ne m'abuse. Elle nous parlera peut-être ça tout à l'heure. Et donc voilà, c'est une revue. Le Faco est une revue collective, mais il y a également des ouvrages d'auteurs qui sont publiés. À côté d'elle, Dominique Mattei, qui est directrice du Centre culturel de Bastia et à ce titre organisatrice du festival de Bastia qui a lieu chaque année au mois d'avril, qui est un des festivals. Ça, c'est un catalogue qui est paru pour les 10 ans de Bastia en 2003. On peut peut-être les faire circuler dans l'autre sens un peu. Donc qui n'est pas auteur de bande dessinée à ma connaissance, mais qui a un point de vue là-dessus, puisque ça fait quand même maintenant plus de 10 ans qu'elle invite des gens, qu'elle organise des expos, des rencontres, et je crois qu'il y a aussi également un travail toute l'année qu'elle fait sur Bastia au sujet de la bande dessinée. Donc on en parlera un petit peu plus. L'une des raisons du fait qu'elle soit invitée aujourd'hui tient au fait que il se trouve que j'étais justement en 2003 à Bastia invité au festival. J'avais été frappé par le fait que l'équipe d'organisation était composée majoritairement de femmes, donc j'avais pas fait de généralité par rapport à ça, mais ça m'avait interrogé. Les seuls hommes que j'avais repéré dans l'organisation étaient les chauffeurs. Et puis aussi du fait que la programmation de ce festival fait partie des rares en France à défendre une bande dessinée d'auteur. On peut toujours parler de cette notion aussi, on pourrait faire un autre débat là-dessus, mais en tout cas avec une programmation exigeante, pour le résumer rapidement. Il y avait également eu ce collectif qui avait été publié à l'occasion d'un des festivals de Bastia, je ne sais plus en quelle année. À côté de Dominique Mattei, Alice Lorenzi qui vient de Liège, dont personnellement j'ai découvert le travail il y a 2 ans au Festival d'Angoulême avec ce livre qui est auto-édité. Alice Lorenzi, donc auteur qui travaille également avec dans un fanzine liégeois qui s'appelle Mycose. passer un peu par là maintenant, on change un peu de côté de temps en temps. Qui pourra aussi nous parler de son travail. Et enfin, last but not least, les noms qui est donc cumule un peu les cascades puisqu'elle est auteur, éditrice, co-éditrice, bon, on reviendra dessus. Donc sur une publication qui s'appelle Pont, qui est non pas constituée exclusivement de travaux de femmes, mais en tout cas éditée par des femmes, et puis qui publie majoritairement des boulots féminins. Je le fais passer également. J'ai retrouvé dans ma collection personnelle de chez Jérôme Comics une des couvertures de Lénon. C'est Marie, ça ? Ah ben, bien joué. Quelle coquille ! On pourrait inviter Marie aussi à cette table. D'accord. Bon, bah, c'est ça, commence avec les coquilles. C'est formidable. Et puis donc, bah, on va peut-être demander à chacune de rectifier tout ce que je viens de dire.
Ouais, donc si vous voulez bien, je sais pas par qui commencer, bah, peut-être les noms, puisque on a terminé par toi. Commencer par expliquer un peu. Je sais pas, ne serait-ce qu'un parcours personnel, c'est arrivé en bande dessinée, ce travail à la fois graphique, éditrice, etc. Que tu précises un peu plus les choses et qu'on essaye de voir s'il y a un lien de cause à effet avec le fait que tu sois une femme. c'est pas gagné.
J'ai oublié aussi de préciser, mais peut-être que tu pourras l'expliquer, que tu travailles au sein d'une structure à Poitiers qui s'appelle Flubble Hub, les éditions Flubble Hub qui ont également une librairie-galerie qui s'appelle Le Feu Rouge.
Alors, si chacun fait son historique, ça va faire un peu long. Mais bon, on va commencer, je vais essayer de faire court. Je sais pas, moi je pense pas que ça soit lié au fait que je sois une femme que je dessine ou quoi. J'ai lu des bandes dessinées depuis que je suis toute petite, comme plein de gens, Volinsky, des vieux Charlie, des trucs pas de mon âge. Et pour ce qui est de la bande dessinée qu'on dit indépendante, je l'ai découverte entre autres avec Menu et Julie Doucet. Donc pour moi, c'était pas spécialement un truc de mec. Enfin, ça a jamais été spécialement un truc de mec. Et voilà, pour le fait, donc je disais beaucoup, je dessine comme beaucoup d'enfants, comme beaucoup de jeunes, qui souvent arrêtent de dessiner à l'adolescence parce qu'on ne nous l'apprend plus. Je me suis un peu remise à dessiner en étant à Rennes, en m'intéressant aussi à ce milieu-là, sachant qu'il y a beaucoup d'auteurs à Rennes, dont beaucoup sont présents ici, donc c'est pas un hasard qu'il y ait Périscopage ici. Et puis avec l'ouverture d'AlphaGraph, et puis pour moi aussi la rencontre avec Joël Manix et Nilso, entre autres, j'ai découvert plein d'auteurs. Il y a chez Jérôme Comics, fanzine hebdomadaire créée avec l'ouverture d'AlphaGraph par une pléiade d'auteurs, dont quelques-uns sont aussi présents ici, qui a encouragé beaucoup à publier. Et moi qui n'avais jamais publié autre chose que trois petits dessins ou des croquis de gens, c'est spécialement Joël qui m'a dit un peu poussé du coude aussi avec cet argument là, enfin Joël Manix donc, qui elle publiait ses comics et beaucoup de choses en disant aussi oui, ne sont pas que des mecs là-dedans, donc là c'est vrai qu'il y avait un petit argument, ça serait bien qu'il y ait des filles, et que ça m'a bien motivée aussi parce qu'elle était là, parce qu'elle savait encourager les gens. Et donc moi j'ai commencé à dessiner là-dedans, et puis comme chez Jérôme était un fanzine hebdomadaire, la publication hebdomadaire pousse beaucoup à faire chaque semaine un peu mieux que la semaine d'avant, à répondre à ceux qui ont fait des pages à côté, à les pasticher, à engager une sorte de correspondance, quelque chose d'assez vivant. Donc voilà, j'ai continué comme ça. Et après, c'est un peu un hasard que j'ai travaillé aux éditions Flubble Hub, enfin aussi par Nilso, parce que j'avais un peu travaillé avec lui sur son premier livre et qu'il a été édité chez Flubble Hub, qui m'a appris qu'il y avait un poste qui se libérait à Poitiers avec l'ouverture d'une librairie-galerie. Donc j'ai sauté à pieds joints. Voilà, rien de spécialement féminin là-dedans, je pense que... Mais...
C'est peut-être dans la perception que tu avais des choses, enfin, le fait de bosser à Flubble Hub, d'ouvrir cette librairie Feu Rouge, c'est aussi proposer une autre façon de voir la bande dessinée.
Ah oui,
tu disais que
tu
avais
été
assez vite baigné dans la bande dessinée, mais ce que tu as cité comme exemple, Volinsky, Charlie, etc., c'est pas non plus les standards cartonnés couleurs pour mecs. Ouais, t'as lu Astérix aussi. Comme
ouais,
Cookie
Flup, Journal de Mickey. Mais c'est vrai que j'entends souvent des mecs dire que la bande dessinée est un truc de mec. Pour moi, comme la bande dessinée qui m'intéresse n'est pas spécialement un truc de mec, comme la littérature en général n'est pas spécialement un truc de mec ou de fille, je suis pas très sensible à ce discours-là. Sauf le seul truc qui, des fois, fait tiquer, c'est Je sais pas, par exemple, quand on a parlé de, d'auteurs de bande dessinée, de femmes en bande dessinée, on pense assez vite à Landeux qui a lancé sa collection très féminin, et qu'on est pas mal d'auteurs à avoir trouvé ça, si on veut, une bonne idée, parce que ça permet d'avoir plus de filles publiées, mais encore une fois, c'est une espèce de quota un peu artificiel, et ce qui est marrant, c'est que c'est toujours un mec qui décide, quoi. C'est comme, c'est toujours un mec l'éditeur. C'est comme le festival Les Femmes s'en mêlent. Il n'y a pas longtemps, on écoutait sur France Inter, dans la voiture, Bernard Lenoir qui parlait des Femmes s'en mêlent, qui disait un festival de filles, de rock. Alors, c'était une journaliste de France Inter qui interrogeait Bernard Lenoir en disant pourquoi tu fais ça. Et il disait, bien sûr, c'est pour me taper toutes. Bon, allez, non. C'est parce que les mecs, ils sont un petit peu réac en rock'n'roll. Et c'est les filles, elles font des choses intelligentes. Alors, oui, bon, d'accord. C'est à peine une généralité. Ensuite, ils commencent à dire oui, ils discutent de trucs et d'autres, une telle, et puis voilà, quand même, des filles qui ont des choses à dire, ils le font subtilement, il n'y en a pas des masses, alors autant les programmer. Et puis paf, ils passent à autre chose, et puis c'était pas relevé. Et puis voilà, c'était deux mecs qui organisaient un festival de femmes, et avec un petit peu cet étendard pour dire, vous voyez, on les invite, on fait des choses avec elles. C'est un peu comme le fait de faire là une conférence sur la bande dessinée les avant-garde féministe alors qu'il n'y a pas d'expo à Vériscopage spécialement de femmes. C'est peut-être un hasard, hein, peut-être qu'il y a majoritairement des mecs, peut-être que c'est des mecs qui font Vériscopage, mais on est content d'être invité, hein, c'est pas ça le truc, c'est juste que tiens, il y a peut-être quelque chose qui cloche si à chaque fois qu'on invite une femme on est obligé de dire que c'est une femme, quoi. Encore, on n'est pas noir et on n'a pas le sida, et etc, etc, mais c'est... Voilà, donc je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'auteurs femmes que moi je prends plaisir à lire, à découvrir. Et pour faire un petit peu un tour de sujet personnel, il y en a encore trop peu qui sont éditées, j'ai envie de dire, soit éditrices, soit éditées d'une façon, on va dire, professionnelle, ambitieuse. Que je vois beaucoup de jeunes talents émerger dans des collectifs et pas beaucoup qui font des livres, à part peut-être. Pas beaucoup quand même.
Alice, ton expérience personnelle par rapport à ça,
des choses par à rapport préciser. À la bande dessinée.
Ouais, comment t'es arrivé
à... En fait, je me demandais quand même qu'est-ce que vous cherchez à savoir en nous invitant, parce que mon parcours, j'ai lu de la bande dessinée quand j'étais petite aussi, et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on disait que la bande dessinée n'intéressait pas les filles. J'ai commencé à dessiner à 22 ans, je me suis pas posé de questions, et j'ai pas l'impression... qu'on lit mon travail parce que je suis une fille, j'ai pas l'impression qu'on me dit « oh, c'est bien... » pour me dire vas-y Fifi, continue. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression non plus d'entrer dans un milieu machiste, mais peut-être que je suis aveugle, je sais pas.
Ouais, j'en sais rien. Peut-être que la problématique,
mais
c'était...
Je veux pas vous embarrasser, mais...
Non, bien sûr, mais justement, c'était... ça a été déjà un long sujet de discussion entre nous quand on préparait ça. Est-ce que c'est vraiment pertinent, cette problématique? Peut-être pas, en effet.
On va rentrer chez vous.
Est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose?
Non, en fait, l'idée c'était
plein de trucs, sinon.
Ça partait à la fois donc de ce lieu commun qu'expliquait Morvandio sur la bande dessinée classique commerciale et majoritairement lue par des hommes, ça ce sont les statistiques. Mais par contre, l'idée que dans la bande dessinée dite indépendante, alors encore un sujet de polémique peut-être ce terme indépendant. Dans les bandes dessinées dites indépendantes, on retrouvait plus facilement et des femmes éditées et des lectrices. Ça, c'est aussi par des expériences personnelles où je me suis rendu compte que beaucoup de gens que je côtoyais, et notamment de femmes, me disaient « la bande dessinée, j'aime pas, ça m'intéresse pas ». Et si je commençais à leur faire lire des choses qui venaient plus des choses un peu indépendantes, là, d'un seul coup, ça les intéressait et elles me disaient « ah, tiens, c'est bien, je savais pas qu'il pouvait exister ça en bande dessinée ». Alors ça peut se généraliser sur... Il y a des hommes aussi qui réagissent comme ça, mais plus facilement... Plus facilement, le lectorat féminin a pu être touché depuis l'émergence des grosses structures indépendantes depuis les années 90 à peu près. C'est une petite expérience personnelle là-dessus. Après, en effet, ça fait peut-être pas un sujet de rencontre non plus.
Mais c'est vrai que c'est récemment, en lisant justement une certaine bande dessinée indépendante, que je me suis dit « Oh, c'est idiot, hein, on peut faire ça, quoi. C'est bien. » Voilà, peut-être. À toi. Oui.
Les noms que tu évoquais tout à l'heure, Julie Doucet par exemple, c'est vrai que c'est aussi Enfin, en tout cas, moi, la perception que j'en ai du travail sur l'autobiographie aussi, qui effectivement touche un public différent, et notamment un public de femmes, peut-être plus qu'avant. Bon, c'est ce qu'évoquait Henri, c'est-à-dire que on recoupait un peu les témoignages qu'on peut avoir chacun de notre côté. Moi, j'étais frappé. Après, je te passerai la parole, Dominique, mais moi, j'étais frappé de voir qu'en France, les quelques festivals de bande dessinée qui revendiquent en tout cas de travailler sur la bande dessinée d'auteur, je pense au festival de Bourg-les-Valence, par exemple, en dessous de Lyon, était à l'initiative de femmes. Le festival de Livry-Gargan à côté de Paris était à l'initiative d'une femme. Le fait que Pili Mugnossi soit là, dirige la maison des auteurs à Angoulême, c'est une équipe composée de femmes. À un moment, je me dis quand même, ça dépasse peut-être le simple truc anecdotique, j'en sais rien, peut-être que c'est question effectivement à côté de la plaque, mais j'en suis pas si persuadé que ça, quoi. Donc voilà.
Bon, ben, je sais pas si ça dépasse l'anecdotique ou pas. C'est vrai que moi, je serais un peu d'accord. Je te l'avais dit d'ailleurs, hein, déjà, quand on en a parlé au téléphone. Je sais pas, effectivement, si c'est très pertinent de dire qu'il y a une BD féminine ou une bande dessinée de femmes. Moi, ce que je peux juste dire, c'est parler de notre expérience. Et par contre, nous, ce qui nous a beaucoup intéressé, et c'est vrai que l'année dernière, on avait réuni un certain nombre de dessinatrices, mais pas tant parce que c'était des dessinatrices que parce que leur bande dessinée avait un ton qui était particulier, et que dans les bandes dessinées de ces filles, on trouvait quelque chose qui avait à voir avec une narration différente de la narration du western, de l'heroic fantasy, ou je veux dire de choses beaucoup plus classiques. Mais ceci dit, c'est vrai aussi de beaucoup d'écrivains hommes aujourd'hui et de dessinateurs de bandes dessinées hommes aujourd'hui. Donc, je sais pas, moi, ce que j'aurais plutôt tendance à dire, c'est qu'il me semble que les champs de la bande dessinée se sont extrêmement ouverts depuis les années 90, avec des fortunes diverses. On l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire avec de grosses réussites, à la fois éditoriales et puis même des petites réussites financières, avec certainement énormément de galères qui sont le soubassement de toutes ces réussites. C'est vrai que, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse à Bastien, c'est de montrer un petit peu tous les champs émergents de la bande dessinée. Et c'est vrai que nécessairement, comme il y avait quand même beaucoup moins de femmes que d'hommes dans la bande dessinée aussi, dans les champs émergents, on trouve beaucoup de femmes. Mais voilà, je veux dire, c'est pas plus que ça. C'est ça que je veux dire. Et pour revenir à ce qu'elle disait tout à l'heure, moi aussi je lisais beaucoup de bandes dessinées quand j'étais petite, et c'était il y a beaucoup plus longtemps que vous. Enfin, plus longtemps, le beaucoup est un peu excessif, c'est un trait de coquetterie retourné. Et je sais qu'il y avait une chose qui m'énervait profondément, c'est que dans ces bandes dessinées que je lisais, qui étaient les bandes dessinées de mes cousins et de mes frères, il n'y avait jamais de filles. Et ça, c'était une chose qui m'exaspérait. Voilà, alors c'est un peu anecdotique, mais c'est pour dire qu'effectivement, en 20 ou 30 ans, le champ de la bande dessinée a énormément changé, énormément évolué, et surtout... Mais je crois que c'est vrai, par exemple, aussi de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'il a été... C'est des champs qui ont été investis par plein de voies différentes et de manières de vivre la création différente. Et c'est vrai que... et en même temps, j'aurais tendance à dire un peu de façon... Pour plaisanter. Comme de toute façon, il n'y avait pas, pratiquement pas de femmes, à part Bretéché, Montelier, enfin... Et en plus, c'était des femmes qui étaient vraiment dans des collectifs hyper pilotés par des mecs. Donc, je crois qu'elles étaient, pour en avoir un peu parlé, notamment avec Bretéché, c'est-à-dire à la fois dans des stratégies de séduction et de résistance par rapport à ça. Voilà. Donc, bon, je conclue. Je pense pas que la thématique soit absolument pertinente, pour dire les choses très franchement, mais je pense pas non plus qu'elle soit complètement à côté. Je crois qu'il se joue quelque chose et qu'il faut pas non plus le rejeter en disant femme ou homme, c'est pareil. c'est pas vrai, c'est pas pareil. Mais en même temps, il n'y a pas une spécificité des femmes. Comme maintenant, quand il y a eu la parité en politique, tous les hommes politiques voulaient des femmes sur leur liste. Et l'argument qu'ils donnaient aux femmes à qui ils demandaient d'être sur les listes, c'était « Venez sur notre liste parce que vous, les femmes, vous êtes vachement bonnes gestionnaires. » Voilà. Donc il ne faudrait pas que... Enfin, c'est un peu un raccourci que je fais. Hein. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais... elles ne sont pas vachement plus sensibles. Elles sont juste comme elles sont, à la fois pareilles et différentes, sauf que maintenant elles sont présentes et qu'avant elles étaient moins. Voilà. Bon,
ce qui n'est pas rien, ceci.
J'en ai dit aussi.
Fafé.
Comment j'ai.
Une sorte d'expérience, ouais.
Mon expérience. Mais bizarrement, moi, par rapport aux trois témoignages d'avant, j'ai pas lu de Béné spécifiquement quand j'étais petite. À part, comme tout le monde, Astérix, Tintin, enfin bon, les grands classiques, quoi. Mais j'ai découvert la bande dessinée très tardivement, peut-être vers 19-20 ans. Et j'ai découvert surtout de la BD d'hommes. Bon, moi, après, c'était un peu plus Moebius, Bilal, Loustal, ce genre de choses. Et j'étais beaucoup plus orientée sur l'art en général. Donc, pas attirée spécifiquement par la BD. Et en fait, je me suis mis à dessiner bien plus tard, quand j'ai découvert par l'intermédiaire de Big Ben le milieu du fanzina, les publications de l'association, les publications du CIMO. Donc c'était déjà bien avancé dans les années 90. Quoi. Et je pense que j'avais pas dans l'esprit la possibilité de faire de la bande dessinée pour moi, parce que c'était pas quelque chose que... Enfin, cette BD-là était tellement différente que du coup, j'avais l'impression que je pouvais aborder ça, alors que la BD traditionnelle, c'était un autre monde, quoi. Et c'est toujours un peu un autre monde pour moi. J'ai vraiment l'impression de deux choses qui se côtoient et qui sont assez différentes. Donc c'est vrai que cette BD d'auteur indépendante, nouvelle BD, c'est ça qui a fait que je suis venue à la BD. Donc c'est forcément lié... sinon je pense que j'aurais jamais dessiné de la BD, quoi. À partir de là, c'est vrai que je me suis un peu lancée là-dedans de manière boulimique. Donc je me suis retrouvée à éditer le FACO avec Big Ben. Après, on a monté une association qui a fait une structure d'édition. On édite pas mal de bouquins. Après, j'ai voulu ouvrir une petite librairie associative à Nice, consacrée uniquement à la BD auto-éditée, c'est-à-dire qu'au départ c'était même toute la BD qui n'est pas diffusée par des diffuseurs, donc c'était assez pointu. Bon, comme on faisait ça bénévolement, et là ça va recouper un peu le débat d'hier, ça n'a pas tenu la route longtemps parce que c'était pris sur notre temps et on l'a fermé. Mais c'est vrai que du coup j'ai vraiment... dans mon approche, un rapport exclusif avec la BD d'auteur. C'est-à-dire que très souvent, quand je vais dans les festivals, les trois quarts des gens qui sont là, qui dédicacent, qui vendent, je ne connais rien, ni les auteurs, ni les publications. Donc c'est un peu... voilà. Et par rapport au fait d'être une femme là-dedans, je ne sais pas... j'ai quand même vraiment l'impression que la BD commerciale est... Enfin, les femmes en sont quasiment exclues, donc je pense que c'est vraiment, enfin, je sais pas si c'est cette problématique est justifiée ou pas, mais c'est vrai qu'on peut pas dire le contraire, c'est lié, quoi. La bande dessinée indépendante est aussi liée avec les femmes, parce qu'il y en a bien plus. Ceci dit, je me souviens de ma première expérience de l'espace fanzine à Angoulême, où on était arrivé le premier jour derrière le stand et Big Ben n'était pas là, donc j'étais toute seule et j'avais amené une amie, Linda Coraza, qui est illustratrice, et on s'est occupé de gérer le stand pendant toute la journée. Et toute la journée, les gens venaient nous demander si les auteurs allaient venir et si on était là pour vendre, en fait. Et on était vraiment les vendeuses, et on était dans l'espace fanzine, on n'était pas donc même dans la BD indépendante, c'est pas encore ça, quoi. Et en plus, je remarquerais aussi que des femmes auteurs commencent à y en avoir quand même pas mal qui sont publiées, mais des femmes qui éditent de la BD, Je crois, j'en connais pas d'autres personnellement. Il y en a vraiment très, très encore moins. Quoi. Donc,
ça n'est pas totalement à côté de la plaque alors.
Ouais. Laure, je t'ai vu acquiescer à pas mal de choses qu'on dit des.
Ouais, moi j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Je trouve ça très intéressant ce qu'il dit, mais. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Mattei, c'est très juste, tout ça est vrai. Enfin, en même temps, il y aurait tellement de trucs à dire aussi sur ce sujet. Tout ça est très vaste, quoi. Comment vraiment l'aborder de la façon la plus simple et claire possible, ça me paraît assez compliqué, moi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? Je ne sais pas.
Déjà.
Oui, mais justement, mon expérience, elle est. C'est dur de parler de soi, c'est dur de parler de son expérience. Moi, j'y arrive pas très bien. Surtout par rapport à tout ce qui s'est dit, qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est très similaire, très parallèle.
Par rapport à tes propres lectures que tu as pu avoir ou tes.
Ah oui, ce que j'ai lu, par exemple. Qu'est-ce qui m'a incité à dessiner quand j'étais. Bon. Bah, en fait, moi j'ai démarré en couple, alors c'est un peu particulier aussi, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu mon acolyte Olivier Josseau, je ne sais pas si je dessinerais aujourd'hui, parce qu'on a vraiment commencé ensemble. On a créé notre revue ensemble, on a tout fait ensemble. Donc là, c'est vraiment une expérience de couple. Est-ce que toute seule, je me serais lancée dans la bande dessinée? Je crois pas, parce que je pensais pas du tout dessiner. Je pensais faire de la photo ou du cinéma, mais je pensais pas dessiner. Ça s'est fait vraiment comme ça, par relation. Après, voilà, que rien d'autre. C'est vrai que ça, c'est assez compliqué quand on est une fille dans ce milieu, je trouve. Et en plus, quand on démarre en couple, parce qu'on va surtout s'intéresser à la présence masculine plus qu'à la présence féminine. Donc c'est vrai qu'il y a du boulot, il y a du chemin encore à faire pour arriver à quelque chose de... Voilà, enfin je suis pas très claire sans doute.
Si, mais tu peux préciser un peu, toi t'as vécu des situations comme ça, de, par exemple de refus de travaux.
Oui, j'en ai vécu
alors
plein.
Alors qu'Olivier, c'était plus simple pour lui d'éditer. Enfin, t'as pu avoir justement ce regard de comparaison.
Ouais, j'ai connu ça, mais en même temps, je vais pas être revancharde non plus et dire que, ouais, voilà, peut-être que moi, mon écriture était différente aussi, la sienne était plus abordable, j'en sais rien, j'ai pas d'explication vraiment à ça. Mais on n'est pas perçu de la même façon, effectivement. C'est-à-dire que nous, quand on démarche, par exemple, quand on va voir les directeurs artistiques, si on veut faire un peu d'illustration, c'est vrai qu'on va tout de suite nous caser du côté des coloristes, ou voilà, vers l'illustration, mais... pour la bande dessinée, c'est vrai que c'est difficile, quoi, quand même. Mais en même temps, ça lève pas le débat, ce que je dis tellement. On piétine.
Si, pourquoi pas, mais est-ce que, outre le démarrage en couple avec Olivier, est-ce que l'émergence aussi de toutes les structures indépendantes dans les années 90 t'ont permis de voir que quelque chose était possible, qu'il fallait.
Ben oui, sinon bien sûr que nous, on a été influencés par tout ça, par l'association, les auteurs américains, Drone and Quarterly, tous ces trucs-là. On a démarré presque en même temps. Bien sûr que s'il n'y avait pas eu tout ça, peut-être qu'on ne l'aurait pas fait, peut-être que j'aurais jamais dessiné aussi. Enfin, ouais. Mais ça ne répond pas à ta question.
Ça en pose peut-être une autre, parce que tu parles d'auteurs américains, on n'en a pas parlé encore, on parle aussi beaucoup de la situation de la France ou de l'Europe, mais peut-être que justement, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a plus de femmes auteurs. Moi, je pense à Jessica Abel.
Il y en avait pas mal dans Drone and Quarterly, par exemple.
Voilà, dans Drone and Quarterly, il y a peut-être plus de femmes éditées. Alors après, est-ce qu'il y a des femmes éditeurs aux States?
Ça, j'en sais rien.
Je ne sais pas trop.
Je ne sais pas. Je pourrais pas
trop. Auto-éditrice, peut-être, mais éditeur, je ne sais pas non plus.
Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'elles étaient présentes dans ce type de revue, quand même.
Depuis le début, oui.
Ouais,
Roberta Gregory aussi, son parcours, elle est carrément liée au féminisme.
Mais elle s'auto-éditait, elle est vachement plus marquée.
Avec women dans les trucs militants, mais peut-être en France, moi j'ai l'impression que c'est quand même moins lié au mouvement féministe, le fait qu'il y ait une BD d'auteurs femmes, et qu'il y ait peut-être des points communs entre certaines auteurs. Enfin, moi c'est vrai que c'est quelque chose que je recherche un peu dans mes lectures, enfin que je recherche, ou que sans rechercher, je m'aperçois que j'aime bien découvrir des auteurs femmes qui disent des choses qui me touchent,
ouais.
Et de la même façon que Menu m'a touchée, mais peut-être que dans Livret de famille, Menu est un peu femme aussi, comme Pajac dans certains de ses bouquins aussi, ou des voilà.
Je sais pas si on peut dire que Menu est femme, mais
bon. Mais bizarrement, Livret de famille.
C'est vrai que Livret de famille, d'après ce qu'ils ont dit lui-même, ça a touché énormément les femmes. C'est vrai que ça a parlé aux femmes, peut-être à cause de ce qui est raconté, tout simplement.
Après, voilà. C'est peut-être, on peut tomber dans le cliché en disant ça, mais il y a un côté autobiographique et une certaine sensibilité, une certaine attention là, au sentiment dont on parle quand on parle de Balzac. On dit, ah là là, qu'est-ce qu'il est fort Balzac pour parler des histoires d'amour et de l'analyse sentimentale. Oui, en même temps, c'était un mec, mais c'est vrai qu'il en a bien parlé. Je pense que pour Menu, il y a eu de ça. Et moi, quand j'ai lu Julie Doucet, c'était un peu en parallèle de Menu. Je me rappelle mais encore.
Est-ce que tu crois vraiment que Julie, c'est une question, est-ce que tu crois que Julie Doucet, ça a touché plus les filles que ou les garçons? Parce que moi, j'ai l'impression que ça a plu surtout aux garçons.
Bah, je sais voilà, pas, voilà, mais moi, je sais que, en tout cas, quand j'ai lu les pages de Julie Doucet où il y a l'histoire de son sang, des règles qui inondent toute une ville, je me suis dit, waouh, nana qui est capable de faire ça, c'est là, elle fonce, tout est possible, quoi. Et donc, c'était punk, mais en même temps, c'était pas vulgaire du tout. Après, elle racontait ses rêves où elle a une bite. Bon, plein de gens font, plein de femmes font des rêves où elles ont des bites.
Ça, ça a marqué beaucoup de gens aussi. Ça l'a un peu enfermé dans un type de.
Peut-être. Alors après, c'est les pages que vous avez fait dans Ego Comics sur est-ce que les femmes sont obligées de dessiner des bites pour réussir dans la bande dessinée.
Bah, c'est ça, c'est un peu ce qui me préoccupe aussi. Je voudrais pas qu'on tombe dans un.
Voilà.
Tout, c'est vrai que ça.
C'est pour ça
moi, j'ai l'impression d'être un peu une extraterrestre quand je pensais ça. Mais si on est plusieurs à le penser, ça va. Il faut pas qu'on réponde. Il faut pas qu'on réponde à un cliché quoi en travaillant, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'on se sente obligé de parler d'érotisme, même si c'est bien de le faire, même si voilà. Mais il faut pas qu'on se sente obligé de dessiner des trucs comme ça pour plaire aux éditeurs masculins. Il faut surtout qu'on reste nous-mêmes. Enfin, c'est peut-être un peu. Enfin, c'était mon sentiment quand j'avais parlé de ce truc-là. Mais...
Ouais, moi aussi, c'est le sentiment que j'ai de découvrir. Quand je découvre en tout cas des auteurs eux sur les festivals, j'ai l'impression de découvrir à chaque fois une singularité peut-être plus forte que je sais pas, c'est ce qui se détache en général, quoi. Une sensibilité qui fait pas référence à quelque chose de précis, qui s'est nourri de beaucoup de choses, mais qui émerge.
C'est aussi une des réflexions qu'on se faisait en réfléchissant à cette rencontre, en cherchant un peu, tiens, qui on pourrait inviter. Moi, j'étais déjà frappé de voir en regardant les différents catalogues, que ce soit l'association Frémoc, Six Pieds Sous Terre, Ego Comics, du nombre très très réduit de femmes dedans, vraiment très très réduit. Quand on regarde les catalogues, ces différents catalogues que je viens de citer, qui sont un peu les éditeurs indépendants les plus connus, même s'il y en a beaucoup d'autres, c'est vraiment très très frappant, quoi. Ça se compte sur les doigts de la main à chaque fois. Et voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil.
Tu voudrais comprendre pourquoi ?
Non, mais j'ai été vraiment frappé parce que je sais où je voulais en venir. Il me semblait dans les listes d'auteurs femmes dont j'apprécie le travail que il y avait une vraie singularité aussi peut-être par rapport au fait, j'en sais rien, qu'elles avaient des influences diverses et aussi autres, peut-être plus fortement que les auteurs hommes que hors de la bande dessinée, quoi. Et aussi hors du traditionnel de la bande traditionnelle bande dessinée franco-belge. Enfin, je sais pas, il me semble que vos travailleurs respectifs, enfin vous, mais aussi je pense à plein de Anke Feuchtenberger, Anna Sommer, qui sont vraiment des gens qui ont un travail.
Dominique Goblet aussi.
Voilà, Dominique Goblet, par exemple, qui ont un travail vraiment très marqué. On voit qu'elles se sont enrichies d'autres choses, qu'elles sont allées voir ailleurs, quoi. Bon, après, est-ce que c'est typiquement féminin? J'en sais rien, mais je trouvais ça frappant.
C'est peut-être typiquement féminin, mais.
Peut-être que les filles ont du mal à dessiner du franco-belge ou de l'héroïque fantasy, j'en sais rien.
Peut-être qu'il y a eu tellement de filles à gros nichons dans l'héroïque fantasy et le franco-belge que.
Oui, je sais pas, là, j'ai pas la réponse non plus, mais c'est, ouais.
Non, ouais, tout à l'heure, je voulais poser une question, mais en fait, Hélène, enfin, Lénon, il a plus ou moins répondu. En fait, je pensais qu'on allait parler de féminisme en bande dessinée, parce que c'est ce qui est annoncé. Donc, est-ce que, pour une femme, faire de la bande dessinée, c'est militant, ou est-ce que éditer des femmes, c'est militant? Enfin, je pensais que ça allait être ça, la question, en fait.
C'est vrai qu'on a t'as bien vu que c'était le bordel.
Ouais, c'est ça, c'est n'importe quoi. Voilà, moi je pensais que la question allait être autour de ça plutôt que comment est-ce que vous avez commencé à faire de la bande dessinée. Mais bon, voilà quoi.
Mais ce qui n'est pas étranger, l'un n'est pas étranger à l'autre, à mon avis.
Non, mais bon, est-ce que c'est un geste militant, quoi, enfin...
Ouais, voilà, une question qui vous est posée.
C'est marrant parce que ce mot de militant, depuis hier, il revient beaucoup, quoi. Et peut-être éditer des femmes, c'est un peu militant parce qu'il y en a tellement peu qu'on se dit qu'au moment où on choisit les gens qu'on va éditer, on essaie justement de faire exprès de choisir aussi des filles. Par contre, moi personnellement, dessiner, c'est pas militant. Je dessine de la même manière que pourrait dessiner un homme. Voilà, je dessine, quoi. J'aurais pu faire des films ou autre chose. Et ça a absolument rien de militant, ni dans le contenu, ni dans la manière dont je le fais. Par contre, dans l'édition, et même dans la librairie, quand j'avais la librairie, c'est vrai que j'avais un petit peu... Enfin là, par exemple, dans le dernier projet qu'on a monté avec Groin sur les c'est 12 auteurs sur l'année avec un, j'en ai mis quelques-uns là par là, un auteur par mois qui couvre toute l'année. Et quand on a fait la liste des auteurs avec Big Ben, j'ai un petit peu mis mon grain de sel pour essayer d'avoir pas forcément la moitié, mais quand même une bonne représentation de femmes dedans, quoi. Et c'était pas évident, même en étant nous-mêmes plongés dedans et en connaissant pas mal de femmes qui font de la BD, ça a pas été évident de, comme tu disais, de trouver suffisamment de femmes pour les faire participer et qu'en plus après elles acceptent de faire le truc. Donc peut-être que l'édition est plus militante que le fait de dessiner. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, c'est le cas, quoi.
Et donc, pourquoi, en fait, moi, pour revenir à cette question-là, pourquoi vous pensez qu'il n'y en a pas, alors, pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas autant de femmes, en fait, enfin, si le constat, c'est ça le constat, est-ce que vous avez des expériences ou des choses
Ouais, je sais pas, à partir du moment où il y a quasiment pas d'éditeurs femmes, forcément il y a beaucoup moins de chances pour que les femmes soient éditées. Je sais pas. Oui, c'est quand même pas mal lié, parce que quand on s'adresse, enfin moi je sais que j'ai eu à un moment plus ou moins l'envie de proposer mon travail ailleurs. J'ai jamais rencontré de femmes en face de moi. On tombe sur des hommes, des groupes d'hommes, enfin on a toujours affaire à des hommes. Après, ça dépend ce qu'on fait. C'est sûr que quand on fait, qu'on est une femme, on fait de la BD un peu trash, provoque, qu'on met des beats dedans, ça va vachement mieux marcher. Moi, je fais un truc vraiment limite pour enfants, presque au niveau du graphisme. Et c'est vrai que, mais maintenant, c'est quelque chose que j'assume, quoi. Je suis une femme, je fais de la BD et bah c'est mignon, il y a des petites fleurs et ça me plaît bien comme ça, quoi. Je vois pas pourquoi je cacherais cette chose-là, quoi, et je m'empêcherais. Et donc forcément, c'est assez mal reçu par des mecs, parce que je sais pas, je crois que ça doit les surprendre un peu, quoi. Oui, le côté que ça soit vraiment un truc de fille. Et c'est même presque exagéré. Non, si inconsciemment, je l'exagère pas d'ailleurs, ça maintenant.
Donc finalement, ça contredit ce que tu disais. Tu disais quand tu dessinais, tu faisais de la bande dessinée comme ferait un homme. Alors que non, tu as des préoccupations de femme. Tu mets des choses.
C'est normal.
Comme tu l'as expliqué, quoi.
C'est normal. Je suis une femme.
Ah ouais, c'est ça le secret.
Non, c'est quelque chose qui m'est arrivé, mais c'était un peu la même situation quand j'étais au Beaux-Arts. Tout à l'heure, Dominique parlait d'art contemporain. On a un peu le même problème. Moi, j'étais au Beaux-Arts et mes premières UV que j'ai, je crois que c'était en deux ou troisième année, j'ai présenté des travaux. Et le jury qui s'occupait d'attribuer les UV n'était composé que d'hommes. Et après m'avoir cuisiné pendant une bonne demi-heure, à la fin ils ont conclu en me disant que c'était pas mal, mais c'était quand même un peu trop féminin. Ce à quoi j'ai répondu, mais oui, mais je suis une femme, donc c'est normal, ça ressort. Il faudrait que je m'en empêche, quoi. Ça me semble complètement délirant, c'est pas possible. Ou alors voilà, soit on fait de la BD comme les hommes et là on peut publier, soit si on fait de la BD comme des femmes, on publie pas. Donc c'est peut-être pour ça.
Dans les années 70, tous les artistes en art contemporain qui ont émergé, enfin, il y en a eu beaucoup, c'était des femmes qui étaient énormément impliquées dans le mouvement féministe, quoi. Donc, qui revendiquaient énormément de choses, ben, justement, la place de la femme. Et c'était souvent assez trash, d'ailleurs. Donc, justement, quand on parle d'Anna Sommer ou ce genre d'auteur, c'est quand même des... Elles, je pense qu'elles sont vraiment militantes, quoi. Mais bon, voilà. Enfin,
non, mais c'est... Je sais pas, moi, je parle à mon nom, peut-être qu'il y a d'autres...
Comment ça se passe à Pont, par exemple? T'as des difficultés à trouver des femmes pour les éditer?
Non, mais justement, c'est une petite réflexion que je me faisais quand tu parlais du petit nombre de femmes dans les catalogues d'éditeurs. J'ai envie de dire, ouais, du petit nombre de livres de femmes, mais je trouve que dans les revues, par exemple, la participation des femmes ou des filles, enfin, est plus importante relativement aux bouquins publiés. Alors après, peut-être qu'il y a un pas là qui se fait pas encore. Peut-être que, comme tu as l'air de dire, Fafé, les livres de femmes, c'est moins vendeur. Et alors là, à ce moment-là, le côté militant, c'est de faire des livres de femmes comme on fait des livres d'hommes, enfin, comme on fait des livres indépendants, comme on dit, qu'on sait qu'ils ne se vendent pas, enfin pas beaucoup. Donc là, oui, c'est militant. Et peut-être qu'il y a encore moins de gens qui vont prendre le risque d'éditer en plus une femme parce que ça risque de moins se vendre. Mais bon, là je dérive un peu par rapport à Pont. Est-ce qu'on a du mal à trouver des filles? Non, c'était même un peu le jeu au début quand on a eu l'idée de la revue Pont avec Julianne, avec Nicole Augereau qui a publié aussi un livre à Flebolab et avec Emeline Dion de Limoges, donc elle a 4 filles. On avait envie de faire un truc de filles parce qu'on en avait marre des comités de rédaction masculins qui n'avaient pas toujours les mêmes idées que nous et que ce soit toujours les mecs qui décident. Donc on s'est dit ok, nous on fait notre truc. Pont, ça s'appelle Pont parce que le thème c'est un coup de tampon. Le prétexte pour faire une revue c'est bien d'avoir un thème, mais après les thèmes textuels genre les fleurs, la révolte, tout ça c'est un peu revu et rabattu. Donc un petit coup de tampon, les tampons... Là, le premier, c'était avis de passage, un tampon de facteur. Le deuxième, c'est un petit diable, un visuel, voilà. Le prétexte pour ça, sauf qu'on n'avait pas l'appeler tampon, parce qu'une revue de femmes s'appelle tampon, ça craint. Donc, on l'a appelé pont. Donc, le numéro 2 s'appelle pompon, le numéro 3 s'appellera pompompon, et si on va jusqu'à 4, ça sera pompompompon, etc. Et donc, à partir de là, on s'est dit, ouais, on fait notre truc de fille, et en disant truc de fille, sans se dire forcément, on va parler de Tampax et de Ragnagna, non, pas du tout. On a juste demandé à des filles qu'on connaît, des amis, eux, qu'on apprécie, tiens, on a un thème prétexte, c'est ça, on tamponnait sur le bras, n'importe où, si tu veux faire un truc dessus, vas-y. Et donc là, on a découvert Laurie, notamment Laurie Mélier, qui a fait la couverture du pompon, qui dessinait pas avant, enfin qui dessinait pour elle, comme finalement font pas mal de gens aussi, des filles et des garçons, des femmes et des hommes, qui dessinent gribouille en se disant ouais non mais c'est pas sérieux, j'ai pas d'ambition. Peut-être que ce réflexe-là de se dire j'ai pas d'ambition, c'est peut-être plus féminin, enfin c'est peut-être plutôt pas féminin, mais en tout cas un vieux risque du patriarcat qui gouverne encore pas mal de choses dans ce bas monde, de se dire non c'est vraiment, enfin non, j'ai pas d'ambition par rapport à ça, je fais ça pour le plaisir. Donc là on dit bah oui, mais nous aussi on fait pont pour le plaisir, donc vas-y, fais-toi plaisir. Et on a fait un petit comité de rédaction histoire de, si on avait des choses à redire, en général il n'y en avait pas trop, donc on a trouvé pas mal de filles qui avaient envie de faire des pages et qu'on connaissait, dont on appréciait les gribouillages ou les pages déjà publiées ailleurs ou pas publiées ou sous le coude, et puis quelques mecs aussi qui trouvaient ça rigolo et qui n'avaient pas peur de se faire traiter de tafiole parce qu'ils étaient dans un truc de filles. Donc on a trouvé du monde et voilà.
C'était quoi dans le comportement de mec qui vous faisait envie de faire quelque chose uniquement entre filles?
Ben, ça nous est juste envie de dire tiens, on peut do it yourself quoi. C'est un peu l'esprit aussi qui anime pas mal la bande dessinée indépendante, on peut le faire nous-mêmes, et le truc c'est pas un truc de mec qui nous faisait envie spécialement, on n'a pas une envie de pouvoir démesuré, c'est pas le pouvoir éditorial qui nous fait avoir envie de faire ça. Plutôt c'est le fait de se dire des fois voilà, on n'est pas d'accord avec des gens qui décident, c'est comme en politique, c'est comme dans plein de choses, et des fois il se trouve que c'est des mecs, et il se trouve que dans l'édition, quand on fait un tour d'horizon, que ce soit l'édition littéraire ou scolaire ou l'édition en général, et donc aussi de bande dessinée, ce qu'on disait quoi, des éditrices, il n'y en a pas beaucoup, et donc des sensibilités différentes. C'est très bien qu'il y ait des lignes éditoriales, donc quand c'est des mecs elles sont peut-être différentes que quand c'est des filles, et nous on avait envie de faire un truc au moins entre nous, et il se trouve qu'on était des filles, et en allant plus chercher les filles, parce qu'on avait constaté qu'elles n'étaient pas assez encouragées, ou en tout cas qu'on laissait pas beaucoup de place quoi. Et après on n'avait pas envie de faire comme l'an 2, de dire voilà une caution, attention on édite des filles, regardez. Surtout que je me rappelle avoir discuté un petit peu avec Thierry Grandstein, alors j'espère que je ne traduis pas ses propos.
Il n'était pas disponible.
Non, quand on a été un peu tombé dessus à bras raccourcis à plusieurs femmes en train de dire c'est quoi ce truc sur tous les bouquins très féminins, qu'est-ce que ça veut dire cette étiquette de caution, voilà, ça faisait un petit peu quota minimal, et qu'il avait dit ah oui mais il y a une réflexion derrière, j'ai remarqué que les femmes lisent plus de BD indépendantes mais pas encore beaucoup, il y a tout un lectorat à conquérir, avec ça on aura les articles dans Marie-Claire et dans Elle et on aura plein de livres. Ah, c'est là, bon, en fait c'est pas que ça, je pense qu'il avait aussi un peu répondu à côté parce que Thierry Grandstein c'est quelqu'un qui a quand même une culture assez énorme en bande dessinée et qui va chercher des auteurs aussi, que je sais que Guérion Dius par exemple, sans lui je l'aurais pas découverte en VO, je sais plus, avec des Pays-Bas, un Irlandais, je l'aurais pas découverte. Je l'ai découverte grâce à lui, j'en suis très contente. Et je pense qu'il a été chercher des gens qui ont, justement, grâce à lui, eu la chance d'être publiés et qui auraient peut-être sinon attendu 10 ans. Mais pour moi, juste, le prétexte est pas bon et juste, c'est dommage que ça soit un mec qui fasse ça. Voilà.
À propos de l'an 2, quand même, je trouve, effectivement, c'est intéressant parce que c'est censé être indépendant et c'est vrai que, finalement... Allez, c'est un ghetto ce qu'ils ont fait. C'est de la charité. Enfin, ça sonne comme ça. c'est comme ça que c'est perçu. Et j'ai l'impression que tout le monde est plus ou moins d'accord avec, mais personne ne lui a dit quoi. Justement, mais oui, mais c'est récent.
Ce qui m'étonnait juste, c'est qu'il ait répondu cette histoire de public potentiel, qui était un peu une réponse marketing, qui m'étonnait de sa part. Quoi.
Mais aussi,
c'était un peu réflexion d'éditeur. Voilà, on va chercher un public, pour quel public on fait nos livres, alors que je pense pas qu'il fasse ses livres comme ça, honnêtement. Je pense que c'est quelqu'un qui est motivé par des artistes, essentiellement.
Mais oui, et tout ce discours, tu sais que les filles, elles n'ont pas confiance en elles, qu'il faut les encourager à faire de la bande dessinée et tout. Je suis pas très d'accord non plus avec ça. Et par rapport au circuit traditionnel, donc la bande dessinée commerciale qui marche, enfin, je ne sais pas, c'est ça, hein. D'aller voir par là. Moi, j'ai même jamais essayé, ça m'intéresse pas. Je cautionne pas.
J'ai essayé chez les indépendants.
Ah, d'accord.
Quand je parlais de démarcher, c'était vraiment des petites structures indépendantes. C'était pas. J'ai pas été tapé à la porte de Soleil, pas du tout.
Ouais.
Donc.
Si tu rejettes ça, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as peur d'être rejeté. On ne va pas chercher par là parce que ce n'est pas intéressant. Voilà, non.
Chez les éditeurs commerciaux, tu
veux dire, les gros machins.
Ah oui, mais oui. De toute façon, c'est ce que je disais au début. Moi, à la limite, c'est des choses que je ne connais quasiment pas. Donc, forcément, ça ne m'intéresse pas. Je n'y vais pas parce que ça ne m'intéresse pas. Mais là, je parlais des éditeurs. De BD, de nouvelles BD. Je parlais pas de. Mais même dans la BD indépendante, au niveau des personnes qui s'occupent des structures, il y a que des hommes.
C'est vrai qu'il s'agit pas forcément de faire les opprimer en train de dire oui, on n'a pas confiance en nous, on n'ose pas si on nous demande pas, tout ça. C'est juste, de fait, je pense qu'il y a quand même des... Ben, comme en politique, quoi. Il y a 50% de. En population, c'est 50-50. En représentation, c'est pas du tout ça. C'est une espèce d'héritage du patriarcat ou de ce que tu veux, mais des choses qui sont encore en place. Et qui...
ouais, on est encore en plein dedans.
Oui, voilà, on est encore en plein dedans. C'est pas forcément de la faute des femmes, quoi. C'est pas parce qu'on se.
J'allais dire le contraire, un truc un peu horrible, mais j'ai l'impression qu'une place, quelque part, dans un milieu quelconque, ça se laisse pas, ça se prend. Est-ce que c'est pas les filles qui ont la flemme et qui s'y collent pas et qui
mais
vont
si
pas,
elles attendent qu'on leur dise « Mais si, c'est bien, vas-y, fais quelque chose. » Tu vois, toujours, perpétuellement, avoir besoin d'être rassurée, quoi, ça ne va pas. La petite chose, la victime, c'est gonflant. Enfin,
bah ouais.
On se perçoit pas comme ça, quand même. Enfin, t'es pas obligé de te transformer en macho, enfin, quand t'es une fille, pour... Moi, j'ai l'impression que je fais de la bande dessinée de filles, mais je me plains. Enfin, je dessine plein de femmes à poil, mais c'est pas pour me conformer à un modèle. Enfin, je veux pas m'interdire non plus. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. La définition du féminisme. Quelle angoisse
Bah ouais, enfin moi la question qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression que du coup être femme dans la BD indé, ça vous oblige à prendre la casquette de féministe en fait, et que c'est quelque part une case qu'on vous assigne. Alors je sais pas, c'est un peu ce qui ressort là quoi. Alors bah moi la question c'est est-ce que vous avez l'impression que d'être entré dans ce milieu vous a sensibilisé à la cause? Est-ce que vous y étiez avant? Est-ce que vous sentez forcé d'endosser cette casquette là? Rien que le fait d'être là à un débat aujourd'hui, ça vous fait rentrer dans une case. Alors est-ce que c'est pas le milieu de la BD indé, qui est peut-être masculin pour l'instant, qui veut vous assigner cette case-là, est-ce que vous avez ce sentiment-là, cette frustration-là, ou je sais pas? Est-ce que c'est simple
Est-ce que c'est une avant-garde féministe ou une avant-garde féminine? Bêtement, quoi.
C'est pas nous qui avons écrit, là. Justement, hier soir, on se disait que ce serait bien d'enlever le STE et de mettre NE, ce serait mieux.
C'est notre fête. Dominique Mattei, sur la question du militantisme, comment toi tu te situes en tant qu'organisatrice? Est-ce que
ben, je crois qu'il y a plusieurs choses. Peut-être déjà répondre, justement parce que je suis pas un auteur ou une auteure à ce qui vient d'être dit. Souvent, les filles qui font de la bande dessinée aujourd'hui, effectivement, ne se situent pas. Forcément dans une filiation du féminisme tel qu'on a pu le mettre en œuvre dans les années 70. Sauf, effectivement, quelques exceptions, comme Anna Sommer, qui très clairement se situe dans cette filiation-là, pour plein de raisons aussi, parce qu'elle travaille avec des écrivains qui sont de cette génération, etc., etc. Mais je crois qu'effectivement, la question du militantisme, c'est peut-être un peu une question centrale. Mais pas pour le créateur. C'est-à-dire, c'est pas une question centrale pour quelqu'un qui crée, parce que quelqu'un qui crée, il crée, point, c'est tout. Je veux dire, et que Julie Doucet mette plein de bides dans ses bandes dessinées, je pense pas du tout que ce soit une volonté de sa part dans le but d'un marketing vis-à-vis d'un public, etc. Non, c'est juste parce que c'est comme ça. Après, l'interprétation que peut en faire les médias ou le public ou le lectorat, c'est leur problème, et c'est bien que ce soit leur problème, qu'il n'y ait pas de surdétermination a priori. Donc je crois que il y a rien de plus terrible pour un créateur que d'être un créateur militant. Je veux dire, on a vu ce que ça donne, on va pas refaire l'histoire, remonter à octobre 17, bon, etc. Par contre, effectivement, la position de l'éditeur ou la position de l'organisateur de rencontres de bande dessinée, là, me paraît pour le coup complètement différente. Et effectivement, moi, je me considère, bien que je sois quelqu'un qui soit salarié, qui fasse le métier de directeur de centre culturel depuis beaucoup de temps maintenant, très beaucoup de temps maintenant, comme toujours quelqu'un de militant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je travaille avec des fonds publics, notamment, je m'assigne l'obligation, alors ça tombe bien parce que c'est aussi un plaisir, mais même si des fois c'est pas tout à fait un plaisir, je m'assigne aussi l'obligation de montrer la création émergente, la jeune création, à condition bien entendu que ce soit une création que moi je considère de qualité. Alors évidemment le critère après il devient toujours personnel, mais ça on n'y échappera pas, mais je m'assigne cette obligation. Et je pense qu'effectivement des éditeurs indépendants ou pas indépendants d'ailleurs, qui travaillent notamment avec des bourses du Centre National du Livre ou des aides des régions, puisqu'il y a de plus en plus maintenant, avec la décentralisation, des régions qui ont des directions du livre dans leur région, bien oui, normalement ces éditeurs-là ils ne doivent pas publier Volinsky, c'est clair, voilà. Donc, mais je crois que la question du militantisme elle est plutôt après dans le l'action culturelle, c'est-à-dire les rencontres d'ici, celles de Bastia ou d'ailleurs, peu importe. Après, dans la création, non, je crois qu'il y a effectivement des femmes qui arrivent dans le domaine de la bande dessinée et qui expriment leur sensibilité, qui est nécessairement, comme tu le disais tout à l'heure, une sensibilité de femme, donc des sensibilités différentes. Et je pense que là où il y a du talent, moi j'ai tendance toujours à être plutôt quand même un peu optimiste de ce côté-là, c'est-à-dire là où il y a du talent, même s'il faut un peu de temps, mais ça émergera, ça sortira. Puis après il y a des choses, il y a moins de talent, mais c'est bien qu'elles existent aussi. Puis voilà, je veux dire, je crois qu'après il y a le fil de la vie, il y a le courant de la vie, et que rien ne serait plus triste. Aïe pleut, ça y est. Très importante conversation, venant ici. Et rien ne serait plus triste que de mettre la bande dessinée, comme pas mal d'autres choses ailleurs, dans des cases et qui soient plus ou moins étanches, même si effectivement, quand on met dans des cases, on sera sûr toujours tous un peu. Voilà.
Est-ce que par rapport à... Juste une dernière question. Est-ce que par rapport au fait justement que le milieu indépendant fait que souvent les auteurs, hommes ou femmes, cumulent un peu les casquettes, sont souvent auteurs mais sont assez souvent auto-éditeurs ou même éditeurs, c'est pas ça qui rend aussi toutes ces questions de militants ou pas plus compliquées, quoi? Oui, tout à fait.
Moi, sur la question du militantisme, juste un tout petit point d'histoire. C'est aux États-Unis, la bande dessinée féminine a commencé à exister vraiment à la fin des années 60 avec Women's Comics, qui était un collectif de femmes qui ont décidé qu'elles avaient envie de faire de la bande dessinée, dont l'écrasante majorité n'en avait jamais fait avant. Et après, c'est devenu Twisted Sisters, avec un nombre de gens très intéressants, enfin que des femmes et très intéressantes. Et historiquement, Phoebe Glockner ou Julie Doucet ou René French ou des gens comme ça sont directement ou indirectement sortis de ça. Et je pense que la position de dessinatrice de bande dessinée aux États-Unis, elle est aussi croisée avec des spécificités très américaines, qui est ce qu'ils appellent les gender studies, etc., etc. C'est-à-dire le fait d'être homosexuel, homme ou femme, etc., etc. Et qu'il y a beaucoup de femmes aux États-Unis qui existent simplement parce qu'elles sont militantes lesbiennes et qu'elles travaillent dans la bande dessinée. Enfin, pour ça, c'est leur but de parler de ça, de la même façon qu'il y a des homosexuels hommes qui publient de la bande dessinée aussi pour témoigner de ce genre de vie. Donc je pense qu'on puisse pas, on peut pas vraiment rapporter la situation américaine à une situation telle qu'on la vit ici maintenant. Et une autre petite chose que je voulais, et j'ai deux petites choses à rajouter. La première, c'est qu'il y a une statistique qui existe qui vaut pour la bande dessinée, on va dire commerciale repérée. On pense qu'il y a à peu près 1000 auteurs de bande dessinée qui gagnent plus ou moins leur vie en étant auteur de bande dessinée. Quand je dis plus ou moins, il y a ceux qui ne vivent que de ça et d'autres qui font d'autres choses. Mais c'est une part de leur activité notable, on va dire. Au dernier pointage dont je peux me rappeler, je crois qu'il y a à peu près 80 femmes. C'est le double d'il y a 10 ans. Et moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que les questions, par exemple, du cinéma féminin se sont beaucoup posées à une époque. On ne se les pose plus du tout maintenant. Il y a des films de Claire Denis, de tout un tas de gens qui sortent. Et que je pense, moi j'attends le moment où en bande dessinée, on regardera un album sur son contenu et pas sur le fait de savoir si c'est un homme ou une femme. On n'y est pas encore tout à fait. Mais ce que je trouve intéressant en revanche, c'est effectivement l'idée qu'un certain nombre de femmes d'auteurs décident de le faire parce qu'elles ont quelque chose à dire en tant qu'auteur. Le fait qu'elles sont femmes est peut-être secondaire. Et la dernière chose que je voulais dire, même si je partage les critiques qui sont faites sur la collection très féminine de l'an 2, je tiens à dire, parce que je le côtoie assez souvent, que Thierry est extrêmement militant sur la question. C'est peut-être le paradoxe de la situation. Voilà, c'était tout.
Parce que t'as plombé l'ambiance. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions?
En fait, moi, je voulais éventuellement faire intervenir Agnès Bourget, qui est libraire à Nantes, dans la librairie Vendouest, au lieu unique. Et le paradoxe, s'il y en a un... Attends, je vais apporter ce micro, il est un peu plus long. C'est qu'à Nantes, il y a 3 librairies spécialisées, bande dessinée, de la fameuse association ALBD, qui sont toutes tenues par des mecs, donc qui sont toutes remplies de superbes figurines d'Heroic Fantasy. Et la seule librairie, qui n'est pas une librairie spécialisée de bande dessinée, où on trouve des choses un peu rares, un peu indépendantes, des petites productions, qu'elles soient féminines ou masculines, on s'en fout, c'est à la librairie Vendouest, au lieu unique, qui est tenue par 2 femmes. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir peut-être ton témoignage, Agnès.
Ouais, en fait, je voulais revenir un petit peu sur... en fait, il y avait un truc que je voulais dire depuis un petit moment. Je pense que à propos du militantisme, d'après les témoignages des auteurs ici présentes, pour elles, ça représente pas, c'est pas du militantisme. Le fait d'être femme et dessinée, c'est pas du militantisme, c'est comme ça, parce qu'elles en ont envie, c'est spontané, il n'y a pas de réflexion politique ou féministe. Par contre, ce qui est marrant, c'est que je crois que le problème vient du public, des lecteurs, et peut-être des médias aussi. Je vois à la librairie, ça arrive très souvent, quand on me demande des conseils pour une bande dessinée, des renseignements, donc je peux orienter un client, un homme, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes quand même qui achètent des bandes dessinées, en tout cas chez nous, que de femmes. Et par exemple, je lui parle d'une BD que j'ai bien aimée, écrite par une femme, mais le nom de la femme n'apparaît pas, de l'auteur n'apparaît pas sur la BD, soit c'est ses initiales, soit c'est un pseudo. Donc on va en parler, au cours de la conversation, je vais finir par lui dire, voilà, l'auteur est une femme, machin, et là, réaction, ah bon, c'est une femme, et tout de suite, son point de vue va changer. Donc ça, c'est clair, hein, c'est clair. Je pense qu'il y a quand même une différence dans les mentalités entre les femmes auteurs et les hommes auteurs. Différence que les femmes auteurs ne font peut-être pas. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre. Pareil, dans les médias, quand je lis des interviews de femmes auteurs de bande dessinée, la question est récurrente. Est-ce que c'est difficile en tant que femme? Non, on revient toujours à ce problème, même si pour les femmes auteurs, c'est... l'approche n'est pas du tout la même, quoi. Donc, sinon, à la librairie, on travaille plutôt la bande dessinée indépendante, parce qu'effectivement, je trouve que c'est déjà beaucoup plus intéressant que la bande dessinée commerciale. Je trouve quand même que c'est un milieu toujours très très masculin. Je rapproche ce milieu du milieu du cinéma. Alors, je suis pas d'accord avec ce qui vient de se dire. Le cinéma, c'est quand même toujours un milieu à dominante masculine. Il y a très peu de réalisatrices femmes, ou très peu de connues, à part Claire Denis, et à part ça, je sais pas, j'en vois pas beaucoup d'autres. Ouais, mais bon, ça fait pas beaucoup, ça fait pas des masses. Oui, oui, mais par exemple,
souvent de faire des listes. Faites une liste des femmes qui font de la BD, vous allez voir, il y en a plein. Oui, mais faites une liste des hommes.
Oui, mais je pense, par exemple, par rapport à la littérature, je trouve que, en tant que libraire, je vois ce qui arrive. La littérature, c'est beaucoup plus mélangé. Il y a quasiment autant d'hommes que de femmes. Le public fait beaucoup moins la différence, ne va pas acheter un bouquin parce qu'il a été écrit par une femme ou par un homme. Je crois que dans le milieu de la bande dessinée, au niveau des clients, des lecteurs, la différence se fait toujours. Voilà.
Et en plus, il pleut.
Bon, où on en est là? Je sais pas, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur tout ce qui a été dit ou...
J'ai peut-être juste une chose par rapport au fait que quand une femme dessine, elle dessine pas, elle ne raconte pas de la même manière qu'un homme. C'est peut-être pour ça que du coup de plus de femmes vont lire les livres en question. J'ai récemment lu un collectif de femmes américaines qui s'appelle Scheherazade, qui a été publié par une femme justement qui s'appelle Megan Kelso, une dessinatrice américaine. Et en introduction de son livre, elle a mis un petit texte pour essayer de justifier pourquoi elle publiait que des femmes, parce que justement elle avait peur de ce côté ghetto. Dire a priori, ça avait l'air de pouvoir la gêner et gêner des gens qui liraient le collectif en question. Moi personnellement, à ce sujet-là, je tombe souvent sur des collectifs où il y a que des hommes et personne ne se justifie au début. Donc pourquoi justifier parce qu'il y a que des femmes? Après tout, pourquoi pas, hein. Elle se justifie et elle dit que son but c'est de montrer que des dessinatrices, créatrices de BD existent. Elle souligne le mot exister. Et qu'elle pense que les femmes bougent, parlent, ont des rapports humains et jouent au basket différemment des hommes. Ils jouent au basket et dedans d'ailleurs. Et donc à partir du moment où on fait beaucoup de choses différemment des hommes, on fait aussi de la bande dessinée différemment. Et que donc ça peut justifier le fait d'avoir ce collectif. Et elle précise aussi que elle avait rencontré Art Spiegelman qui lui avait dit qu'il trouvait que ce que les femmes avaient apporté à la BD, c'est qu'elles dessinaient les femmes justement d'une manière totalement différente de ce que pouvaient faire les hommes, même les hommes qui dessinaient dans la BD underground américaine comme Crumb, et que c'était pas forcément des super nanas avec des gros seins et des petites tailles. Et que justement, quand les femmes dessinaient des femmes, elles les dessinaient autrement. Et que cette manière de montrer les femmes avait ensuite influencé les hommes eux-mêmes, qui maintenant arrivaient eux aussi à dessiner les femmes différemment. Donc voilà, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Parce qu'on parlait de comment les femmes dessine, est-ce qu'elle dessine différemment quand même.
Ouais, c'est marrant ce que tu dis ça, parce que moi j'ai longtemps aussi remarqué que j'appréciais que c'était un peu un critère pour apprécier un auteur de bande dessinée, de voir putain, il dessine super bien les nanas. Et je sais que Blutch, Jean-Jean, Baladi, ils dessinent super bien les nanas. Et j'adore lire leur bande dessinée parce que je dis ouais, elles sont trop belles. C'est un peu comme quand, même quand t'es une fille, tu t'assois à une terrasse de café et tu regardes passer les filles dans la rue. Tu regardes les mecs, tu regardes les filles aussi, tu dis putain, le monde est beau. On est belles. Et tu lis une bande dessinée de Jean-Jean, c'est les dernières Flame Carnet, et les filles elles ont des baguilles jusqu'en dessous de la raie des fesses, mais on voit pas le raie de fesses parce que c'est quand même vachement plus poétique. Et les mecs aussi, ils sont énormes et c'est tout léger, tout poétique, très beau, et il y a une grâce là-dedans qui est effectivement pas du tout la même grâce que la fée clochette de Loisel, quoi. Vraiment pas du tout. Et qui est quelque chose, ouais, de très appréciable, parce que du tout, moins, je m'attendais pas à cette analyse à la fin, mais c'est peut-être effectivement un héritage de, parce que les auteurs de BD mecs lisent aussi des auteurs eux de bande dessinée et aussi des auteurs eux de romans et aussi des cinéastes, etc.
Est-ce une bonne conclusion?
Ça a l'air pas mal.
Donc pour finir, est-ce que cette problématique était un faux prétexte ou...
On s'en tire pas trop mal. Bravo. Merci à vous.